Les cours du Collège de France, Samantha Besson, chaire droit international des institutions.
Alors bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là ce matin au Collège de France pour la sixième et dernière leçon du cours de cette année consacré, vous le voyez encore une fois à l'écran, aux souverainetés au pluriel. Alors parce qu'il s'agit de la dernière leçon, je vais... Avant de commencer avec la leçon à proprement dit, vous proposer une synthèse des acquis des dernières semaines. Alors, pour mémoire, la souveraineté, c'est l'autorité ultime, à la fois d'un peuple, de ses institutions et des organes de ses institutions, de dire et d'appliquer le droit, à la fois pour ce peuple, ses institutions et les organes de ses institutions. Dans sa dimension externe, qui nous intéresse tout particulièrement en droit international, et parce que de nombreux peuples habitent cette terre, et nous en reparlerons définitivement ce matin, la souveraineté, c'est aussi l'indépendance de ces autres peuples, de leurs institutions souveraines et des organes de ces institutions, une indépendance sans laquelle l'autorité ultime de chaque peuple, de ses institutions et de ses organes, ne pourrait pas être préservée. Et c'est précisément, je l'ai dit, cette dimension externe de la souveraineté comme indépendance qui fait que le principe de souveraineté et le droit international sont indissociables depuis l'origine. Je l'ai dit aussi, ils partagent une même origine, la naissance de l'État dans l'Europe moderne du XVIIe siècle et sa juridiction territorialement délimitée et souveraine. En effet, une juridiction souveraine et indépendante, c'est ce qui doit pouvoir être garanti également par un droit qui leur est commun, c'est-à-dire le droit international. Malheureusement, et comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière et les semaines suivantes, c'est aussi cette combinaison d'un étatisme méthodologique de la souveraineté en droit international, un droit international qui ne s'autorise pas à connaître d'autres institutions souveraines que l'État, et d'un légalisme méthodologique, un droit international qui ne s'autorise pas à aborder cette autorité ultime aussi comme une autorité politique et la dilue dès lors en une pure question de validité juridique. Donc c'est cette combinaison d'un étatisme méthodologique de la souveraineté en droit international et de son légalisme méthodologique qui a rendu le droit international aveugle à la tension droit politique qui est inhérente à la souveraineté. Et cet aveuglement ou cet angle mort a amené aujourd'hui de façon tout à fait regrettable, au divorce entre la souveraineté et l'autorité du droit international. Que l'on soit en faveur du droit international ou en faveur de la souveraineté, le droit international est désormais dans un jeu à somme nulle, de plus en plus abordé soit comme l'anti-souveraineté et la souveraineté abordée comme l'anti-droit international. Et pourtant, je l'ai dit et je le répète, la tension, voire le paradoxe, entre puissance politique et autorité du droit ont toujours été très bénéfiques parce qu'émancipateurs, tant d'un pouvoir politique illimité par le droit que d'une autorité de droit sans auteur, sans origine politique. Ce paradoxe, il remonte aux origines du concept de souveraineté chez les juristes et théologiens médiévaux du XIIe siècle, et à l'articulation à l'époque entre potestas, puissance, et auctoritas, autorité. Contrairement à ce que l'on entend souvent, la souveraineté n'est ni simple puissance politique, ni autarcie, puisqu'en tant qu'autorité ultime de dire et d'appliquer le droit, la souveraineté c'est une autorité de droit, et elle peut, voire doit être limitée par le droit. Et cette limitation juridique propre à ce qui fait qu'une institution est une institution, ou un état de droit, et donc hétéronome, est inhérente à la souveraineté. Et ce, même au-delà de l'auto-limitation juridique par le souverain, bien entendu. Mais en même temps, et du fait de son rôle liminal, de son rôle d'origine, de son rôle de seuil, de son rôle de charnière entre droit et politique, la souveraineté n'en demeure pas moins aussi le produit d'une institution publique. Elle ne peut pas ni ne doit se réduire dès lors entièrement à sa validité juridique. Et c'est ici toute la dualité de l'autorité ultime, celle de la limite, qui apparaît. La dualité d'une autorité qui est à la fois, je l'ai dit, limitante et limitée. Et c'est d'ailleurs par la souveraineté populaire, rappelez-vous, celle d'un pouvoir à la fois instituant et institué, que la souveraineté de la modernité tardive est parvenue à entretenir cette tension ou ce paradoxe entre puissance politique et autorité juridique dès le XVIIIe siècle. On peut même avancer que c'est de cette manière que les théoriciens démocratiques des Lumières ont pu ramener la dualité entre transcendance et immanence de la souveraineté des juristes et théologiens médiévaux, alors qu'elle avait été perdue lors de la fusion ou confusion entre l'auctoritas de l'Église et la potestas de l'Empire, par l'institution de la souveraineté en une seule institution, l'État moderne du XVIIe siècle. En fait, c'est surtout par le développement du constitutionnalisme démocratique durant les siècles suivants que cette tension entre un peuple souverain à la fois constituant et constitué sera le mieux saisie, parvenant à instituer le peuple par la représentation, et donc littéralement à le représenter, à le faire apparaître, un peuple qui, sinon, demeurerait introuvable. Le rôle du droit constitutionnel démocratique dans cette institution première de la représentation est alors de garantir un cadre égalitaire, y compris sous la forme d'un statut égal des personnes humaines et des peuples, qui lie non seulement le pouvoir constitué comme le reste de l'ordre juridique, mais aussi, et c'est à nouveau paradoxal, qui lie le pouvoir constituant pour qu'il puisse en devenir un en premier lieu. Ce fut d'abord le cas sur le plan national, bien sûr, le plan constitutionnel, mais depuis 1945, c'est aussi le cas sur le plan international, avec le développement des normes dites impératives, comme certains droits de l'homme, mais très importants pour nous dans ce cours, comme le droit à l'autodétermination des peuples, et bien sûr l'égalité de souveraineté, et j'y reviendrai encore une fois pour boucler la boucle tout à l'heure. Si je l'ai dit, le droit constitutionnel interne est parvenu, dès le XVIIIe siècle, à maintenir cette tension ou paradoxe entre puissance politique et autorité juridique. Les deux dimensions de la souveraineté ne sont pas encore parvenues à se combiner en droit international. Le droit international en a d'ailleurs souffert, du moins après la mise à l'écart du droit naturel des gens et de l'analogie naturelle qui est au fondement de l'égalité de souveraineté des peuples et des États des origines. Son histoire révèle en effet combien l'approche de la souveraineté puissance politique a dominé, et je simplifie à l'extrême, du XVIIe siècle au XIXe siècle, culminant dans ce qu'on a appelé l'anarchie souveraine, au prix à l'époque d'un véritable droit international et en menant à deux guerres mondiales. La seconde approche, celle de la souveraineté autorité juridique, elle ne s'est imposée que timidement dès la deuxième moitié du XXe siècle, notamment avec la proclamation de l'égalité souveraine de l'article 2, paragraphe 1 de la Charte des Nations Unies. Et cette seconde approche aura finalement et malheureusement peiné à contenir les puissances au prix d'une véritable souveraineté en et de droit international et menant à ce que j'ai appelé la crise actuelle. Alors je m'explique. Durant la première phase, qu'on appelle à tort celle de la souveraineté westphalienne, ces traités ne parlaient pas de souveraineté, rappelez-vous. Donc, durant cette première phase, le droit international ne pouvait pas véritablement être du droit international. Ces obligations n'étaient réputées exister pour les États souverains qu'en cas de consentement souverain à ces obligations, comme le confirme encore une fois parfaitement l'arrêt de la Cour permanente de justice internationale dans l'affaire Wimbledon en 1923. Mais durant la deuxième phase, celle du droit international qu'on appellera plus tard le droit international constitutionnel, l'autorité souveraine a été diluée, totalement dissoute, en une autorité de pur droit international, et j'ai parlé du même phénomène en droit européen la semaine dernière. Réduite alors à un ensemble de droits et de compétences, la souveraineté est devenue indépendance, ou autorité légale, sous l'autorité du droit international, comme le préconisait parfaitement Hans Kelsen, en 1944. Preuve d'ailleurs qu'aucune de ces deux approches de la souveraineté ne parvient à régler la tension ou le paradoxe de la souveraineté. Elles coexistent aujourd'hui encore, se battent l'une avec l'autre en droit international contemporain, comme dans un palimpseste, je l'ai dit, et ce alors qu'elles sont profondément contradictoires. Et ce jeu à somme nulle entre la souveraineté et l'autorité du droit international aura malheureusement été délétère pour la légitimité du droit international. Il nourrit d'une part le retour du populisme et du souverainisme sur le plan national, et d'autre part le retour de l'anarchie entre grandes puissances, totalement désinhibées, unhinged, hors de leur charnière, comme nous disons en anglais, sur le plan international. Malheureusement, au lieu d'essayer de cultiver cette tension de la souveraineté entre droit et politique, la plupart des auteurs, y compris en droit international, choisissent aujourd'hui, je l'ai dit tout à l'heure, l'une ou l'autre dimension du paradoxe. Et ce faisant, comme l'a très bien expliqué Daisenhaus, ces auteurs transforment ce paradoxe en un simple dilemme, comme si le paradoxe pouvait se résoudre par le choix de l'une ou l'autre de ces dimensions, et ne pas continuer à hanter les débats sur la souveraineté à l'avenir. Aujourd'hui encore, on peut donc distinguer deux grandes familles de conceptions de la souveraineté en droit international qui remontent à ces deux auteurs des années 30, Schmitt d'une part et Kelsen de l'autre. Heller se trouve au milieu, Heller l'ignoré, Heller l'oublié, qui aujourd'hui, de plus en plus, se rappelle à nous. Donc d'un côté, vous avez la famille plus politique, qui reconnaît la compétence de la compétence, ultime à la puissance politique hors de toute autorité juridique, à la Hobbes, Vattel ou précisément Schmitt. Et de l'autre côté, vous avez une famille plus juridique, qui dilue la souveraineté entièrement dans sa validité juridique, et en fait une question de règles de reconnaissance ou de Grundnorm, à la Kelsen, Hart ou Lauterpacht. Rares sont ceux, je l'ai dit aujourd'hui, qui, dans une troisième famille, qui demande qu'à grandir, comme celle de Heller et aujourd'hui d'Eisenhaus, résistent encore et tentent de concilier ces deux dimensions de la souveraineté. Et précisément, en réponse à cela, pour faire enfin vivre le paradoxe de la souveraineté en droit international et notamment sa dualité entre faits politiques et normes juridiques, entre potestas et auctoritas, ce cours a proposé une théorie politique et plus précisément républicaine du droit international et notamment de la souveraineté en et de droit international. Il s'est agi en effet de développer, semaine après semaine, une théorie capable de saisir et d'expliquer la valeur politique des souverainetés instituées et réinstituées par ce droit, notamment pour lutter contre la domination des peuples, c'est ce que fait le républicanisme, et protéger ces peuples comme un parapluie contre les différentes formes de puissance publique et désormais privée qui se déchaînent et se multiplient désormais. Comme je l'ai expliqué dans la première leçon, la raison inhérente au droit international pour la dilution de la dimension politique de la souveraineté en une autorité de pur droit après 1945 tient au déni de la dimension populaire de la souveraineté, pourtant reconnue et garantie dans la tradition constitutionnelle de la souveraineté étatique en droit interne depuis le XVIIIe siècle. Il faudra attendre 1945, je l'ai dit, pour la reconnaissance de l'égalité des peuples par le préambule de la Charte des Nations Unies et surtout, vous vous souvenez, par ce très bel article 1, paragraphe 2 de la Charte. Puis sous la forme du droit à l'autodétermination des peuples au sein des deux pactes des Nations Unies de 1966. Mais par la suite, et malgré l'usage du terme « nation » dans le titre de la Charte des Nations Unies, et dans le préambule de la Charte des Nations Unies, une séparation stricte, presque hermétique, y compris chez les auteurs, s'est instaurée en pratique entre la souveraineté des États d'un côté, que l'on retrouve à l'article 2.1 de la Charte, et l'autodétermination des peuples de l'autre. Et c'est précisément la poursuite de la construction de cette dimension populaire et politique de la souveraineté bien comprise en et de droit international et de son corollaire, l'égalité de souveraineté des peuples, que j'ai proposé dans ce cours, et ce afin de faire sauter, enfin, le verrou de l'étatisme méthodologique de la souveraineté en droit international, comme celui du légalisme méthodologique. En étendant la souveraineté à d'autres institutions que les États, et il en sera encore question beaucoup ce matin, et en ravivant sa dimension politique et populaire. Il s'est agi de l'égalité des peuples souverains, bien sûr, qui sont très nombreux, mais aussi de leurs multiples institutions publiques souveraines, dont les États et bien d'autres encore, sur le plan infranational, les villes, les cantons, nationales, les institutions des peuples autochtones, par exemple, de leurs institutions publiques co-souveraines sur le plan international, par exemple les organisations internationales régionales, et de leurs multiples organes et représentants publics, législatifs, exécutifs, judiciaires, tant nationaux, infranationaux qu'internationaux. Et c'est cette pluralité et cette égalité des souverainetés qui a valu au très beau dessein de Plantu de se faire affubler, rappelez-vous, d'un S que je me suis permise de rajouter. Toutes les implications de cette égalité de souveraineté populaire n'ont pas encore été bien saisies dans l'ordre institutionnel international depuis la décolonisation. En fait, bien comprise et bien contextualisée, comme j'ai proposé semaine après semaine de le faire, ces souverainetés au pluriel pourraient constituer un ressort fictif pour un nouveau chapitre, non seulement plus égalitaire, mais aussi, et nous y venons, plus habitable dans l'histoire de l'organisation juridique des peuples du monde. Et ma méthode, vous le savez désormais, aura été interprétative. C'est ma thèse, en effet, dans ce cours, que chacun des problèmes soi-disant posés par la souveraineté en droit international contemporain pourrait et devrait être réglé depuis cette souveraineté et de l'intérieur du droit international, une fois ce dernier bien interprété, plutôt que soit contre la souveraineté, soit contre le droit international, comme c'est le cas actuellement. Et précisément, semaine après semaine, sur chacune de ces questions, je vous ai proposé de nouvelles interprétations du droit international que la popularité et l'égalité des souverainetés pourraient fonder. Dans la deuxième leçon, j'ai défendu, en me fondant sur l'égalité de souveraineté, une conception relative et partagée des souverainetés des peuples et de leurs institutions qui permettent de justifier une conception à la fois pluraliste de l'autorité co-souveraine du droit international et de ses institutions et coopérative de la juridiction individuelle des États. La troisième leçon m'a amené à proposer une conception non propriétaire et surtout politique de la territorialité de souveraineté des peuples, en expliquant comment les souverainetés des peuples et de leurs territoires s'instituent et se réinstituent ensemble en droit international, et ce même parfois, et je le dirai encore ce matin, de manière multiple, au travers de confédérations ou d'organisations régionales. Dans la quatrième leçon, j'ai défendu la co-originalité entre l'égalité et la solidarité de souveraineté des peuples et de leurs institutions, et les obligations de coopération que cette solidarité fonde, ainsi que la répartition équitable qu'elle justifie, en contrepoids à l'égalité dans et devant le droit international. Enfin, dans la cinquième leçon, vos souvenirs sont peut-être plus frais, j'ai expliqué comment le droit de l'Union européenne a dilué la souveraineté en une question de validité juridique dans la droite ligne kelsenienne, et j'ai proposé une réinstitution confédérale des souverainetés des peuples et États européens afin de cadrer juridiquement l'émergence, désormais, d'une nouvelle souveraineté de l'Union européenne qui, si nous n'y prenons pas garde, sera une souveraineté puissance. Après ce retour sur le projet du cours de cette année, qui est, je l'espère, désormais plus clair, et cette synthèse finale de ces acquis, il est temps, pour finir, de passer au thème de cette dernière leçon. Et dans cette leçon, que j'ai intitulée de manière un petit peu plus longue que d'habitude, « Souveraineté d'un monde au singulier, à habiter au pluriel », je vous propose de traiter d'une cinquième et dernière question qui est en fait la plus difficile de toutes. c'est celle de la pluralité des cultures juridiques et politiques des peuples du monde, et notamment la pluralité de celles dont les marques des souverainetés colonisées ou autrement dominées, ignorées ou mises de côté par les puissances européennes ne sont pas devenues celles du droit international au XVIIe siècle, à la différence des marques souveraines européennes, les nôtres. Comme je l'ai expliqué dans la première leçon, les marques de la souveraineté, pour citer Bodin, ce sont les caractéristiques de l'autorité ultime de dire le droit. Ces marques varient non seulement d'époque en époque, mais aussi de culture en culture. Il suffit d'ailleurs de penser à l'évolution que j'ai retracée dans la première leçon, des marques de souveraineté en Europe et même dans chaque État européen, comme la France, le Royaume-Uni ou l'Allemagne, depuis le XVIIe siècle, pour s'en convaincre. Mais au XVIIe siècle, ces marques européennes de la souveraineté, qui étaient en flux, sont devenues celles du droit public européen et, par son universalisation, celles du droit international moderne. Et ce faisant, elles ont non seulement été universalisées par la force, mais elles ont aussi été figées par ce que l'on pourrait désigner d'une universalité de surplomb du droit international lui-même et par le jeu des rapports de primauté du droit international sur le droit national. Tout d'abord, bien sûr, il s'agit, je l'ai dit, des marques de souveraineté exclusivement étatiques du fait de l'étatisme méthodologique de la souveraineté de ce droit international. C'est ce étatisme méthodologique de la souveraineté qui a limité le développement d'autres marques de souveraineté non étatiques sur le plan infranational, national et international, et notamment le développement des souverainetés autochtones qui ont été figées nettes, oubliées, ou au sein des organisations régionales, qui, je l'ai rappelé l'an dernier, existent depuis longtemps. Ensuite, ces marques de souveraineté, lorsqu'elles sont territoriales, sont, je l'ai dit, aussi éminemment anthropocentriques, anthropomorphiques et propriétaires, et notamment à ce titre, absolues et exclusives. Pensez à nouveau ici au droit à l'intégrité territoriale, ou à l'interdiction de l'interférence dans le domaine réservé de l'État. Alors bien sûr, même en droit international, et je l'ai dit ce matin, ces marques ont évolué depuis le XVIIe siècle. C'est le propre de la souveraineté, comme l'a bien expliqué Walker, de constamment évoluer. C'est aussi d'ailleurs par cette évolution, ce recyclage, que la souveraineté peut jouer ce rôle émancipateur, si bien saisi par Koskoniemi. Je ne peux pas retracer ces diverses étapes de l'évolution des marques de souveraineté du droit international ici. J'ai brièvement résumé 2-3 éléments de la première leçon tout à l'heure et je vous renvoie à la première leçon si vous voulez avoir l'entier de l'argument et à mon introduction, à l'introduction de tout à l'heure. Pour mon propos de ce matin, il suffit de vous rappeler la transformation très importante de la souveraineté anthropomorphique et donc purement individuelle des États, celle de Vattel du XVIIe, en une souveraineté populaire et donc collective de ces mêmes États, ainsi que par conséquent le passage de l'anarchie de la souveraineté à son égalité et donc à sa solidarité. Ces deux évolutions, je l'ai rappelé tout à l'heure, ont été consacrées par les articles 1.2 et 2.1 de la Charte des Nations Unies en 1945, et par la jurisprudence internationale. Mais c'est une évolution qui est encore en cours, et c'est elle qui aura constitué mon point de départ argumentatif, mon levier interprétatif dans ce cours. Et précisément, forte de la popularité et de l'égalité des souverainetés, et des 4 propositions que j'ai faites pour poursuivre la réinstitution de l'égalité de souveraineté des peuples de 1945, j'aimerais examiner avec vous ce matin comment aller encore plus loin? Il s'agit de compléter la décolonisation du droit international en décolonisant ce qui est en son cœur, la souveraineté populaire, mais tout en préservant sa force, l'égalité de souveraineté populaire et sa garantie par le droit international impératif. Il s'agit donc de décoloniser nos souverainetés occidentales universalisées, devenues celles du droit international, pour les rendre plus inclusives et de ce fait non seulement plus égalitaires et donc légitimes, mais aussi peut-être, nous le verrons, plus robustes et plus adaptées au monde qui vient et à ses défis, notamment climatiques. Une telle entreprise a au moins deux objectifs, en effet. Un premier objectif de décolonisation des souverainetés populaires et égalitaires du droit international, et donc un objectif qui se met dans le sillage de tous les projets de décolonisation du droit international. Et deuxièmement, un objectif qui va de pair de désanthropisation de ces mêmes souverainetés au sens d'une remise en cause de l'anthropocentrisme ou de l'hominisme du droit international, pour citer Delmas Marty, et non pas, bien sûr, d'une déshumanisation ni d'une remise en cause de l'humanisme. Il s'agit premièrement de restituer la pluralité des politiques du faire-monde, pour citer le titre du dernier ouvrage de Descola, de restituer cette pluralité des politiques du faire-monde aux peuples dont les souverainetés étaient différentes des nôtres, et ce pour garantir leur pleine égalité de souveraineté en et de droit international, plutôt que de continuer à les soumettre à ce que le juge Forster appelait en 1975 un authentique décalque des institutions européennes, dont la souveraineté. Mais contrairement aux anthropologues, qui peuvent se permettre de cultiver la relativité totale des cultures, nous autres juristes internationalistes sommes contraints par une exigence d'universalité minimale. Comme au XVIIe siècle, en effet, ce n'est qu'à condition de pouvoir partager un monde ou un ordre international minimal des souverainetés et dès lors des marques minimales de souveraineté en et de droit international que ces souverainetés pourront être garanties en tant qu'égales les unes des autres et que l'indépendance qui est le propre des souverainetés en et de droit international pourra être garantie également à tous les peuples. Il s'agit donc d'envisager la possibilité d'un droit international minimal et commun des souverainetés plurales en repartant du droit international existant et en le reconstruisant ensemble pour les faire coexister de manière égalitaire. D'où le titre de cette leçon, « Un monde au singulier, à habiter au pluriel, par l'institution de souveraineté au pluriel, par un droit international au singulier. » Vaste programme. Alors les obstacles sont nombreux, ne serait-ce qu'en raison, et je l'ai déjà dit, de la polychronie ou de la polytemporalité des souverainetés entre les régions du monde, selon que la souveraineté est récente, en raison de la décolonisation, ou d'origine pour les bienheureux États européens, premiers États en et de droit international. Parfois, cette souveraineté est d'ailleurs encore en attente, comme celle des peuples autochtones, dont le droit à l'autodétermination est contesté en droit international et n'est toujours pas devenu une souveraineté en droit international non plus, comme je l'ai expliqué dans la première leçon. En fait, ce qui est à l'œuvre, encore une fois ici, c'est la double temporalité de la souveraineté en et de droit international, selon qu'on la regarde du point de vue des anciens colonisateurs ou des colonisés, avec tout l'enjeu de la double conscience, pour citer Du Bois. La conscience d'être enfin devenus des souverains à égalité en droit international et de vouloir le réclamer et en profiter, mais aussi la conscience de continuer à être dominée par cette forme de souveraineté d'origine européenne universalisée par le droit international. En bref, ce décalage temporel lié à la décolonisation et à l'accession tardive de certains peuples et leurs États à la souveraineté fait qu'alors que la critique postcoloniale de la souveraineté du Nord global demande que le droit international abandonne la souveraineté, ou du moins une certaine conception de la souveraineté considérée comme impérialiste, Eh bien, ce sont certains peuples décolonisés du Sud global et leurs États, en l'occurrence du Grand Nord, qui y voient au contraire un levier émancipateur depuis les années 60. C'est le cas, par exemple, dans cette photo du Groenland, où le peuple autochtone du Groenland n'a jamais tant tenu à sa souveraineté comme protection contre l'approche propriétaire de la souveraineté de Trump. Et c'est tout le défi de cette leçon. Reconstruire un nouveau régime commun des souverainetés en droit international pour l'avenir, plutôt que vers le passé, en partant du régime actuel, mais dans le respect de la pluralité et de l'égalité souveraine de ces mêmes peuples et de leurs institutions, ainsi, et ce sera mon objet ce matin, que de leur milieu naturel, ou écoumène, et de leurs multiples relations dans et avec ces écoumènes. Notez que j'utiliserai ces deux termes, milieu naturel et écoumène, de façon interchangeable, parce que je ne peux pas entrer ici dans le débat sur la distinction nature-culture, ni sur la distinction animaux vivants non humains, et opte résolument pour une approche englobante du vivant humain et non humain, que nos concepts binaires et les lignes actuelles du droit international ne permettent malheureusement plus de capturer. Un deuxième objectif de cette entreprise de pluralisation des marques de souveraineté en et de droit international, à côté de la décolonisation de ces souverainetés, c'est précisément d'apprendre de ces autres types et marques de souveraineté du faire-monde pour enrichir le droit international existant, notamment afin de faire face aux défis de l'Anthropocène et inclure au sein des souverainetés de droit international les souverainetés des milieux naturels ou écoumènes et du vivant en général, qu'ils soient humains ou non humains. La question est d'autant plus urgente que, comme je l'ai expliqué dans la troisième leçon, les souverainetés en et de droit international contemporain ne sont pas encore libérées de leur dimension propriétaire et anthropocentrée. Et que des souverainetés biocentrées, centrées sur le vivant plutôt que simplement sur le vivant humain, plus larges, devraient être envisagées de toute urgence. Il est certain que les marques de souveraineté du droit international contemporain, qui traitent la terre comme un objet de propriété, comme une ressource, seront moins aptes, si elles demeurent les marques universelles en place, à relever les défis du dérèglement climatique que les marques de souveraineté qui instituent la terre et plus généralement l'écoumène du vivant humain et non humain en souverain. Et c'est ce qui rend cet exercice de clôture de ce matin en souveraineté comparée vital pour l'habitabilité du monde et l'avenir de tous ses peuples. Et c'est la deuxième raison du titre de cette dernière leçon. Un monde au singulier à habiter au pluriel par l'institution de souveraineté au pluriel, par le droit international au singulier. Vous comprenez maintenant pourquoi il devait être si long. Alors les obstacles ici aussi sont très nombreux, à nouveau en raison de la polychronie des souverainetés en et de droit international. Certains peuples décolonisés considèrent en effet qu'ils ont, à titre de revanche, le droit d'exploiter leurs ressources naturelles en vertu du principe de souveraineté permanente sur les ressources naturelles qu'ils ont obtenues de dures luttes au moment de la décolonisation. Vous avez ici ce principe à l'écran. Et ce, alors que certains peuples et États du souverain du Nord global ne considèrent plus la souveraineté propriétaire comme une forme légitime de souveraineté pour des raisons environnementales. Et en fait, ici, c'est une deuxième forme de double conscience qui apparaît, de l'autre côté cette fois-ci, et de la part des anciens États colonisateurs et de leurs peuples. Ils s'intéressent aux marques de souveraineté des autres peuples quand ils en ont besoin pour faire face au dérèglement climatique, tout en réalisant, bien sûr, qu'il s'agit là potentiellement d'une nouvelle forme d'exploitation, en l'occurrence une exploitation des savoirs politiques et juridiques dans leur propre intérêt, encore une fois. Il me semble pourtant, et ce sera mon argument, que la popularité et l'égalité de la souveraineté en droit international permettent de relever ces deux difficultés posées par la double temporalité et la double conscience de la souveraineté, et ce à la fois pour sa décolonisation et sa désanthropisation. En effet, premièrement, la popularité et l'égalité des souverainetés requièrent que la décolonisation des souverainetés en et de droit international se fasse de manière égalitaire et dès lors par un processus démocratique au sein duquel tous les peuples et leurs institutions peuvent participer à égalité. Et quand on leur demande, ce sont précisément les peuples décolonisés et autochtones qui sont les plus fervents soutiens aujourd'hui de cette lecture populaire, égalitaire et surtout démocratique du principe de souveraineté, pour lutter avec nous de l'intérieur contre les nombreuses inégalités souveraines et l'héritage colonialiste, impérialiste que le droit international entretient aujourd'hui encore. Pour ces peuples décolonisés, et la littérature en est pleine, la souveraineté a une dimension politique claire. Elle signifie bien davantage que pour nous qu'une autorité égale et l'indépendance sous l'autorité du droit international. Quant à la deuxième difficulté, celle de la double conscience en ce qui concerne la désanthropisation des souverainetés, l'interprétation populaire et égalitaire que j'ai défendue semaine après semaine permet aussi, à mon avis, d'en faire façon, notamment en évitant tant l'anthropocentrisme, bien sûr, que l'anthropomorphisme des souverainetés biocentrées qui les compléteront. En effet, en interprétant la souveraineté des institutions, dont celle des États, par référence au peuple dont c'est la souveraineté, il est possible de dépasser l'anthropomorphisme de l'État et de sa souveraineté, et donc sa tendance originelle à l'individualisme. Par définition, en effet, la souveraineté populaire, rappelez-vous, est une souveraineté relationnelle qui aborde l'autorité ultime de chaque peuple par référence au rapport collectif entre membres de ce peuple, les citoyens, et entre peuples. Par ailleurs, comme je l'ai expliqué dans la première leçon par référence à Walker, la souveraineté, une fois popularisée, s'est transformée d'une autorité ultime de la limite, une clé de voûte, pour devenir aussi une autorité ultime de l'origine. Et c'est cette double dimension à la fois relationnelle et originelle de la souveraineté populaire en droit international qui explique, comme j'en ai fait l'argument il y a 3 semaines, que les peuples ne puissent plus être considérés comme instituants et institués en dehors du milieu avec lesquels ils ont des relations, y compris avec les autres membres du vivant non humain qui se trouvent dans ce milieu, et surtout en dehors d'un milieu naturel dont ils sont originaires. Et donc c'est cette origine de l'origine de la souveraineté populaire que nous allons essayer de retrouver ce matin. Ces deux réponses populaires et égalitaires à la difficulté de la double conscience en ce qui concerne tant la décolonisation que la désanthropisation des souverainetés en droit international se retrouveront respectivement dans les arguments de ma deuxième et troisième partie ce matin. Mon argument sera en effet articulé en 3 parties, vous le voyez à l'écran. Dans la première partie, j'expliquerai en détail pourquoi il faut décoloniser la souveraineté de l'intérieur et ce qu'on peut espérer de cet exercice. La deuxième partie portera sur le comment de cette décolonisation et sur la manière de comprendre et d'apprendre, surtout avec les autres peuples, également souverains, notamment par le biais du droit international comparé des souverainetés et des procédures démocratiques qui permettent la concertation des souverainetés. Et dans la troisième et dernière partie, je présenterai quelques propositions pour réinstituer ce que j'appelle les peuples-terres en droit international et renforcer le cadre de l'égalité fondamentale ou de droit impératif de ces souverainetés dont je vous ai parlé tout à l'heure, un cadre de l'égalité fondamentale des souverainetés qui, d'anthropocentré, devrait devenir biocentré. Une toute dernière remarque rituelle, désormais, j'ai publié sur certaines des questions que je vais aborder ce matin et je vous y renvoie si vous le souhaitez, notamment sur la question de la concertation des civilisations et sur la consolidation du droit international par la jurisprudence internationale. Alors, dans la première section, j'aimerais revenir sur la décolonisation du droit international et vous expliquer pourquoi. La souveraineté, telle que nous en héritons aujourd'hui en droit international, même ressaisie sous un angle populaire et égalitaire comme j'essaye de le proposer, demeure une invention européenne, d'abord médiévale, puis moderne. Elle est donc la marque par excellence, il est vrai, du manque d'universalité du droit international contemporain. Pire, parce qu'il y a pire, c'est aussi la marque par excellence de son rôle dans la domination de nombreux peuples du monde, puisque, comme je l'ai expliqué dans la troisième leçon, c'est grâce à une conception propriétaire de la souveraineté territoriale adoptée au XVIIe que le droit international a soutenu, entretenu, codifié, maintenu la colonisation et l'impérialisme. Et encore pire que le pire du pire, cette dimension propriétaire de la souveraineté en droit international est aussi la marque par excellence de l'anthropocentrisme et de la domination des milieux naturels. En fait, la domination de certains peuples par une conception propriétaire de la souveraineté elle-même dominante a permis d'exiger la domination par ces peuples de leur milieu naturel, et ce alors même que les marques originaires de souveraineté de ces peuples étaient aux antipodes des nôtres, aux antipodes de la domination des milieux naturels. Elles étaient biocentrées. Et cette critique est faite depuis de nombreuses années, tant par les théoriciens que par les praticiens du droit international. Tout d'abord, en effet, cette critique a été portée par les représentants du mouvement qu'on appelle critique du droit international, et notamment par le mouvement TWIL, les approches du tiers-monde du droit international. Vous avez deux exemples ici de ces publications à l'écran. La critique décoloniale de la souveraineté a surtout porté sur la dimension étatiste et propriétaire de la souveraineté. Et donc, nos deux projets se rejoignent. Et elle s'est désormais doublée aussi, je l'ai dit, d'une critique environnementale, comme je l'ai expliqué dans la troisième leçon. En bref, cette critique, et je vous le rappelle, accuse la conception propriétaire de la souveraineté d'avoir permis aux puissances européennes d'étendre leur empire sur les mers, puis d'acquérir d'autres territoires par la colonisation. Et c'est ce qui explique que tant le droit international classique de Grotius au XVIIe que le droit international moderne inauguré par Vattel ensuite aient repris la conception lockéenne de John Locke, je vous l'avais expliqué, de la souveraineté-propriété pour le compte des États. L'idée selon laquelle, à l'époque, un État ne serait véritablement souverain sur son territoire que s'il l'occupe, que s'il le fait fructifier, est rapidement devenue l'une des dimensions de la civilisation et du droit international de civilisation du XIXe siècle. À l'époque, seuls les peuples pouvant faire preuve de cette industrie sur leur territoire étaient dignes d'être considérés comme des États souverains. Et par la suite, c'est cette même conception propriétaire de la souveraineté, une fois devenue celle de la souveraineté des peuples et des États décolonisés dès les années 60, qui a permis une nouvelle forme de colonisation, toujours du territoire, à l'instar du principe de souveraineté permanente sur les ressources naturelles. C'est ce qu'a confirmé par exemple l'accaparement des terres dans ces États depuis. En effet, la souveraineté-propriété fonde notamment les exigences de privatisation ou d'extraction posées aux économies des États colonisés, ou encore les régimes juridiques de nationalisation de la terre avec l'octroi ensuite de concessions privées, comme par hasard, à des investisseurs et des entreprises provenant des anciennes puissances coloniales. La dimension propriétaire de la souveraineté des États décolonisés se trouve aujourd'hui encore dans la conditionnalité à l'industrialisation ou dans les autres exigences de développement technique et désormais scientifique, notamment en matière de sciences climatiques, posées par le droit international du développement depuis les années 70. Et cette critique décoloniale de la souveraineté par les auteurs s'est aussi retrouvée en pratique. Et c'est ce moment qu'il faut saisir, ce moment pratique. C'est notamment le cas, je l'ai dit déjà, dans la jurisprudence de la Cour internationale de justice et notamment dans les opinions individuelles des juges. C'est tout d'abord notamment la projection, le décalque, je l'ai dit tout à l'heure, d'une conception européenne de la souveraineté territoriale sur les peuples en voie de décolonisation au moment d'évaluer leurs droits, qui a été beaucoup débattu au sein de la Cour internationale de justice dès les années 60, avec des résultats très mitigés d'ailleurs, honteux véritablement, et puis petit à petit un peu améliorés, comme notamment, vous le voyez ici, avec cette réalisation et ce cri du juge Forster. Cela a été le cas justement dans cette affaire du Sahara occidental, dans laquelle il s'agissait de savoir si le peuple et le territoire en question présentaient les marques de souveraineté typique d'un État souverain, moderne, et notamment un territoire délimité, une population distincte et un gouvernement effectif. Mais aujourd'hui encore, et je vous l'ai dit, c'est ce moment qu'il faut saisir, la question hante le palais de la paix de la Cour internationale de justice à La Haye et hante notamment les juges du Sud qui siègent à la Cour. Ils sont divisés sur la question de savoir s'il faut ou non continuer à faire référence aux marques territoriales de la souveraineté en et de droit international au vu de l'histoire coloniale de ces marques. Et vous avez ici deux extraits d'opinions individuelles dans l'affaire Gabon contre Guinée équatoriale, le juge Youssouf d'abord et puis le juge Tlady ensuite. Leur désaccord porte notamment sur les principes de l'outil possidetis et de l'effectivité de l'occupation à l'instar de la prescription acquisitive à des fins d'établissement du titre de souveraineté territoriale. Alors que certains juges, comme le juge Youssouf, considèrent qu'il faudrait abandonner ces principes et marques de souveraineté pour décoloniser une fois pour toutes le droit international, d'autres, comme le juge Tlady, considèrent qu'il faudrait abandonner ces principes et marques de souveraineté considère que ces principes et marques de souveraineté doivent au contraire être préservés malgré leurs origines honteuses pour éviter le chaos sur le continent africain. Comme je l'ai expliqué en introduction, il me semble qu'il existe une troisième voie, une voie très étroite certainement, mais qu'il vaut la peine d'explorer, entre le status quo du juge Tlady et l'abandon pur et simple des marques contemporaines de la souveraineté en et de droit international du juge Youssouf. C'est celle de la reconstruction par l'interprétation décolonisante des marques de souveraineté du droit international contemporain à la lumière de la souveraineté populaire et égalitaire. Alors, loin de moi l'idée, évidemment, de nier l'histoire problématique de la souveraineté. C'est le sujet de ce cours, après tout. Mais à la critique, je pense qu'il faut faire suivre une proposition de reconstruction et ne pas rester les bras croisés en se lamentant, comme de nombreux théoriciens marxistes ou Twell du droit international qui jettent le bébé de la souveraineté avec l'eau du bain. C'est du moins, vous le savez, ma position résolument reconstructiviste. Le droit peut être le complice des pires injustices qu'il contribue à organiser et à justifier, mais il peut aussi être le complice des plus grands progrès sociaux et humanistes qu'il contribue à organiser et à exiger. C'est une erreur, dès lors, de considérer le droit international lui-même, y compris le droit international de la souveraineté, comme un empire, irrémédiablement souillé et condamné irrémédiablement à soutenir l'impérialisme et l'extractivisme pour toujours. C'est d'autant plus le cas en matière de souveraineté. Comme je l'ai rappelé tout à l'heure, la souveraineté devenue celle du droit international a évolué. Elle s'est recyclée depuis le XVIIe siècle jusqu'à amorcer, rappelez-vous, depuis 1945, un tournant timide, mais un tournant tout de même vers une souveraineté populaire et une souveraineté égalitaire. Bien interprétée, Elle peut donc devenir ce levier d'émancipation égalitaire des peuples et de réuniversalisation du droit international. Mais pour cela, évidemment, il faudrait que la souveraineté, ce serait vraiment intéressant, que la souveraineté soit une dimension partagée, du moins à minima, par toutes les cultures juridiques et politiques du monde. Et en fait, même avant que la souveraineté en et le droit international ne soient imposés à tous les peuples par ce droit, que la souveraineté européenne soit imposée à tous les peuples par ce droit, on peut considérer que le besoin d'une autorité ultime, une autorité de la limite, à la fois limitante et limitée, se retrouvait partout, même si c'est sous différentes formes institutionnelles, bien entendu. Il existerait donc bien une communalité minimale de la souveraineté entre ces cultures juridiques, et si c'est le cas, il serait possible de reconstruire ensemble, depuis ce socle minimal commun, ce besoin d'une autorité ultime de la limite, les marques de souveraineté que le droit international a imposées. Alors c'est en tout cas, je vous l'avais dit, et je vous le remontre ici, ce que nous rapporte Supio sur la base des cas indiens, chinois et africains. Selon lui, je le cite, « Il ne faut pas confondre la généralité du problème auquel répond la souveraineté, celle du besoin d'autorité ou de limite ultime à la puissance politique, qui est, je vous l'ai dit, le même partout, et je le cite à nouveau, la spécificité de la réponse qu'elle y apporte, fin de citation, celle de son phénomène ou marque de la souveraineté, qui varie de culture juridique en culture juridique. » Et en l'occurrence, la souveraineté de la modernité européenne et de l'État, devenue, il est vrai, celle du droit international contemporain, au mépris de la souveraineté des autres. Il est donc possible de considérer que le problème de la souveraineté de manière générale est aujourd'hui commun à tous les peuples, même si les réponses diffèrent d'une culture juridique à l'autre. Si le régime commun du droit international contemporain a été universalisé, imposé, pour dominer, et qu'il manque aujourd'hui véritablement d'universalité, il doit encore être possible de comparer, d'apprendre des multiples types et marques de souveraineté des peuples pour réviser ce régime commun de l'intérieur et de façon égalitaire et espérer, c'est bien le mot, le rendre plus représentatif. Comme au XVIIe siècle, ce n'est qu'à condition de pouvoir partager un monde, un ordre international minimal des souverainetés, et dès lors des marques minimales de souveraineté en et de droit international, que ces multiples formes, marques de souveraineté, pourront être garanties en tant qu'égales les unes des autres, et que l'indépendance qui leur est propre pourra être garantie. Alors si la direction du droit international, son orientation, et la direction du droit international de la souveraineté en particulier des 19e et 20e siècles a bel et bien été, pour citer encore une fois Kennedy, celle de l'Europe vers le monde et celle du politique vers la propriété, peut-être que nous pourrions faire en sorte en tant que juristes, non seulement critiques, mais en tant que juristes responsables, de renverser la machine au 21e siècle. Pourquoi ne pas tenter d'insouffler une nouvelle direction des souverainetés, du monde vers l'Europe, des mondes vers l'Europe d'une part, et des souverainetés biocentrées, des souverainetés politiques du biocentré, vers nos souverainetés chétives, anthropocentrées et propriétaires d'autre part. C'est bien le sens et le second degré de l'image que j'ai choisi pour illustrer le programme de cette année, ce tableau qui s'appelle « Espérance », l'espérance de cette femme blanche qui prend bien trop de place sur une planète qu'elle écrase de tout son poids et au sujet de laquelle elle se lamente, peut-être en se culpabilisant. Et pourtant, cette femme espère encore. Il lui reste une corde à sa harpe. Cette corde de la souveraineté est une corde occidentale, elle le sait, elle ne s'en cache pas. Mais c'est la seule dont elle sache jouer, peut-être d'ailleurs, nous allons le voir, pour jouer enfin une mélodie en concert avec les autres. Alors, dans cette deuxième partie de la leçon, j'aimerais précisément me tourner vers le comment. Le comment de la décolonisation des souverainetés et leur désanthropisation en droit international. Une manière de se faire serait d'avoir recours au droit international comparé des souverainetés et à des procédures démocratiques qui permettraient cette comparaison et peut-être, qui sait, un jour, une concertation, je m'expliquerai sur ce terme, des souverainetés dans un droit international à venir. En effet, respecter, consacrer, admirer l'égalité de souveraineté des peuples et par extension de leur culture juridique et politique en droit international n'interdit pas du tout de distinguer leurs différences, ni de comparer sur l'une ou sur l'autre question leurs forces et leurs faiblesses. Leur solidarité co-originaire, je l'ai dit dans la quatrième leçon, avec l'égalité de souveraineté des peuples, justifie même, à mon avis, de favoriser leur apprentissage mutuel, notamment pour faire face à des problèmes communs, comme le dérèglement climatique. À l'heure de l'Anthropocène, il est certain que les marques de souveraineté anthropocentrées du droit international contemporain, qui traitent la Terre comme un vulgaire objet de propriété et une ressource, seront moins aptes à relever les défis du dérèglement climatique que les marques de souveraineté biocentrées qui instituent la Terre et qui instituent plus généralement l'écoumène du vivant humain et non humain en souverain. Il est donc urgent pour nous, les comparatistes, de développer un tour du monde des souverainetés et de leurs marques. Alors un tel projet dépasse malheureusement les possibilités de secours, mais j'y reviendrai peut-être à mon retour au collège dans quelques années, et il dépasse d'ailleurs mes capacités de seule chercheuse. J'aimerais cependant en esquisser ce matin les contours méthodologiques avant de faire quelques propositions dans la prochaine section. De manière générale, le projet défendu ici de décolonisation des marques de souveraineté en droit international participe, je l'ai dit, au retour en droit international de projets qu'on appelle des projets de droit international contemporain. Comparé. Je dis retour parce que c'est quelque chose que nous faisions il y a longtemps. Vico, par exemple, était un grand comparatiste du droit international. C'est quelque chose qui était très présent durant la guerre froide. Mais aujourd'hui, le droit international contemporain revient. J'aimerais donc commencer par dire quelques mots sur la manière de rendre les méthodes du droit international contemporain légitimes du point de vue de la popularité et de l'égalité des souverainetés en et de droit international. Il est clair, en effet, pour moi, et je renvoie ici aux travaux très intéressants de Michaels, que le droit international comparé lui-même doit être décolonisé, au risque sinon de ne pas parvenir à décoloniser les souverainetés en droit international. Alors, comme je l'ai expliqué dans mon cours de l'an dernier, deux fondamentalismes guettent la réponse du droit international au défi de la décolonisation des souverainetés et de l'égal respect des cultures juridiques ou civilisations. Je vais utiliser ces deux termes de manière interchangeable. Le premier fondamentalisme, c'est le fondamentalisme de l'universalisme uniformisant et la négation des civilisations aux cultures juridiques qu'il induit. Le deuxième, celui des anthropologues dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est un relativisme culturel qui peut se retrouver dans certaines démarches de droit comparé et son essentialisation des civilisations qui rend leur conflit inéluctable. Et trouver un chemin entre ces deux écueils, tout en respectant la pluralité morale, culturelle et par conséquent juridique qui doit caractériser le contenu du droit international universel contemporain, n'est bien sûr pas facile. Il vaut mieux parler d'un travail de réuniversalisation pluraliste du droit international. Travailler à ces réuniversalisations, comme je le propose, devrait permettre de sauver ce qui en fait l'intérêt, la garantie universelle d'une égalité des peuples souverains, tout en corrigeant ses faiblesses. Ce travail de réuniversalisation pluraliste du droit international doit passer par ce que j'ai appelé ailleurs la concertation des civilisations, par référence à l'ouvrage de Numa Yasuaki, la concertation transcivilisationnelle. Comme ce dernier, je considère que cette référence explicite aux civilisations offre une réponse au retour constant du terme civilisation au pluriel en droit international. Mieux vaut, face à ce terme problématique, nous approprier ce terme que de le faire disparaître, de l'annuler, de le canceller, au risque de dissimuler encore une fois les origines civilisatrices du droit international et d'attiser très régulièrement de nouvelles formes de résistance civilisationnelle au droit international. Mais contrairement à ce que certains pourraient craindre, cette approche de concertation des civilisations n'implique pas d'épouser une idée naïve d'unité et de paix, soit à retrouver, soit à établir entre civilisations. Au contraire, la concertation des civilisations se réalise tant dans la contestation que dans l'harmonie, comme la double étymologie du terme « concerté » le révèle, selon que l'on parle italien ou français. Par ailleurs, la recherche d'un tel débat entre civilisations n'implique ni de nier ni l'hybridité des civilisations contemporaines, au nom d'une pureté culturelle imaginaire à retrouver, ni d'ailleurs les désaccords intra-civilisationnels, qui sont plus fréquents que les désaccords inter-civilisationnels. Il ne s'agit donc pas d'affirmer un essentialisme civilisationnel, voire l'inévitabilité de conflits entre civilisations. Enfin, concerter les civilisations implique davantage que l'instauration d'un dialogue entre civilisations, comme on l'entend souvent. En effet, les civilisations ou cultures juridiques, en tant que système dogmatique, ne sont pas des personnes, ce ne sont pas des institutions. Elles ne peuvent donc pas, strictement parler, dialoguer. En revanche, il est possible, et surtout souhaitable, d'instaurer une concertation entre les peuples dont ce sont les civilisations. Et cela doit passer par l'identification d'institutions qui pourraient assurer cette concertation transcivilisationnelle dans les procédures d'adoption du droit international universel. Ce projet de réuniversalisation du droit international par la concertation transcivilisationnelle passera bien sûr par la comparaison des pratiques juridiques des peuples du monde. Et si c'est possible, pour citer l'ouvrage de Mireille Delmas-Marty, par l'identification d'un droit commun universalisable issu de la convergence de ces pratiques. Mais pour l'heure, ces différentes entreprises de recherche d'un droit international commun, par la comparaison, souffrent à mon avis de deux lacunes très importantes. Et ces deux lacunes sont d'ailleurs aussi en ligne de mire de la critique décoloniale du droit international comparé lui-même, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et auxquels il faut donc remédier avant de commencer la comparaison. Premièrement, ces propositions d'un droit international commun ou transcivilisationnel se sont jusqu'aujourd'hui concentrées sur le contenu d'un droit international commun. Et il y est peu, à ma connaissance, fait mention des modalités procédurales de l'identification de ce droit commun et donc de leur légitimité politique. Et pourtant, la légitimité universelle d'un tel droit international commun transcivilisationnel réside tout autant, si ce n'est plus, dans ces procédures transcivilisationnelles d'adoption. Le risque, sinon, c'est de ne pas pouvoir répondre à la critique du caractère néo-impérialiste de ce droit prétendument commun, ou du moins prétendument réuniversalisable, mais qui serait identifié par quelques experts académiques du Nord global, y compris au Collège de France. En l'occurrence, il s'agirait donc de traiter les souverainetés à comparer, non pas seulement comme des objets de comparaison sous cloche, mais aussi comme les auteurs de cette comparaison, comme les moyens de cette comparaison, en d'autres termes, comme des souverainetés en concertation. Deuxièmement, et c'est lié, les projets de droit transcivilisationnel existants se sont reposés sur la comparaison des pratiques étatiques du droit international. Et ce faisant, ces projets ne remettent en cause ni la division entre droit national et international, ni l'ordre institutionnel interétatique existant. En fait, cette critique que je fais à l'instant de l'étatisme méthodologique du droit international comparé rejoint ma critique de l'étatisme méthodologique de la souveraineté elle-même en droit international. Et s'il s'agit, comme je le propose, de comparer les pratiques et marques des souverainetés des multiples peuples et institutions souveraines du monde, y compris pour dépasser ce que j'ai appelé dans la première leçon le piège étatique de la souveraineté, cette prison étatique de la souveraineté qui a empêché d'autres formes d'institutions souveraines infranationales, nationales, internationales de se développer, eh bien, comparer uniquement des pratiques étatiques de la souveraineté ne fera que confirmer le status quo des marques étatiques de souveraineté façonnées dans l'Europe du XVIIe siècle et figées ensuite par le droit international existant de la souveraineté. Il est essentiel dès lors d'élargir la focale comparative lorsque nous nous mettrons à ce projet comparé, tant dans le contenu des pratiques et marques souveraines comparées que dans les sources de cette comparaison, dans les procédures de cette comparaison et dans les institutions de cette comparaison. La méthode retenue pour la comparaison puis la concertation des souverainetés en droit international désormais clarifié, je peux en venir maintenant au projet de comparaison et concertation envisagé beaucoup plus concrètement. Comme je l'ai dit précédemment, le projet d'un tour du monde des marques de souveraineté dépasse malheureusement les possibilités de secours. Je le reprendrai peut-être dans quelques années, mais surtout dépasse fondamentalement mes capacités de seule chercheuse. J'ai les yeux bandés, je l'ai dit tout à l'heure. Et plus qu'une seule corde à marpe, donc il faut faire ce que l'on peut faire et pas plus. Je pense qu'il faudrait un, voire plusieurs colloques pour ce faire. Mais dans tous les cas, il ne faut pas être naïf. Beaucoup des marques de souveraineté des peuples anciennement colonisés, des peuples autochtones, ou des peuples simplement dominés ou ignorés ou laissés de côté, ont disparu. Et elles ne sont pas si simples à réactiver. Alors l'anthropologie, bien sûr, est de bon secours. Et je pense ici à l'ouvrage de Libersky sur la souveraineté de la terre des peuples voltaïques. Cependant, il est difficile de généraliser depuis quelques traces identifiées par les anthropologues, surtout lorsque, comme le dit Libersky, ces pratiques politiques souveraines ancestrales ne sont plus vivantes et ont été remplacées par des pratiques occidentales de la souveraineté, ne serait-ce que parce que c'est ce que la Banque mondiale leur demande. Il existe alors en effet un risque d'idéalisation, voire d'essentialisation de certaines marques coutumières de souveraineté dites africaines, sans parler bien sûr de la reconstruction par les anthropologues eux-mêmes de ces souverainetés, depuis le modèle de la souveraineté dominant, celui du droit international, souvent à des fins de présentation pédagogique et parfois même de justification de ce qu'ils trouvent. Et tout cela va troubler la qualité de la description anthropologique et sa pertinence dans un projet comparatif. L'important dès lors, et je l'ai dit tout à l'heure, c'est d'organiser rapidement des procédures internationales juridiques et politiques inclusives de tous les peuples souverains et de leurs institutions multiples, et représentative pour la comparaison des souverainetés et l'apprentissage dynamique entre peuples, et surtout ensuite pour la reconstruction à égalité des marques souveraines en droit international. Dans tous les cas, et c'est à cela que j'aimerais consacrer la troisième partie de la leçon, il me semble qu'il est possible d'accompagner ce travail de comparaison, d'apprentissage et de concertation égalitaire des souverainetés en droit international lorsqu'il aura lieu, par un travail plus normatif, c'est celui que je peux faire, de réinterprétation et de reconstruction de ces souverainetés de l'intérieur, comme je l'ai fait dans chacune des leçons précédentes, mais cette fois-ci de manière à les rendre plus biocentrés. En fait, contrairement à ce que l'on pourrait penser à première vue, ces deux démarches, comparatives d'une part et normatives de l'autre, ne sont pas contradictoires. Elles sont bien complémentaires. En ce que je l'ai dit, les souverainetés en et de droit international ont déjà évolué, évoluent encore dans leur interprétation, grâce à ce nouveau levier populaire et égalitaire qui est le leur. En retraçant, comme j'ai essayé de le faire, la généalogie de ces souverainetés de droit international depuis le XIIe siècle, et en comprenant mieux d'où elles viennent, nous pouvons influencer où ces souverainetés en et de droit international pourraient, voire devraient aller. Et c'est dans cette démarche de décentrement, de selfie occidental, comme l'appelle Musso à la suite de Ballandier, donc c'est dans cette démarche de décentrement, de selfie occidental qu'offre le droit international comparé des souverainetés, que nous pourrons renforcer encore d'autant ce travail de réinterprétation généalogique que je vais vous proposer. Alors précisément, j'y viens dans cette troisième partie. J'aimerais vous proposer quelques propositions normatives pour réinstituer les peuples-terres en droit international et surtout pour renforcer, de manière totalement cohérente, vous le verrez avec ce qui existe, le cadre de l'égalité fondamentale ou de droit impératif des souverainetés pour le rendre non seulement anthropocentré, ce qu'il est, mais biocentré. Comme je l'ai expliqué en introduction, l'interprétation populaire et égalitaire que j'ai défendue semaine après semaine permettrait, je pense, de remédier à l'anthropocentrisme des souverainetés en le complétant par des souverainetés biocentrées sans tomber dans l'anthropomorphisme politique dont souffrent aujourd'hui nos institutions. En interprétant la souveraineté des institutions dont les États par référence au peuple dont c'est la souveraineté, c'est le projet du cours, il est possible de dépasser l'anthropomorphisme de l'État et de sa souveraineté et sa tendance à l'individualisme au détriment de la solidarité co-originaire de l'égalité de souveraineté des peuples. Et ce, pour deux raisons. Tout d'abord, la souveraineté populaire est une souveraineté relationnelle. Donc, quand vous associez souveraineté de l'État et souveraineté populaire, vous ouvrez l'État, vous ouvrez la boîte, et vous réalisez qu'il y a un peuple fait de quoi ? De relations. Et cette souveraineté relationnelle populaire permet d'aborder l'autorité ultime de chaque peuple par référence au rapport collectif entre membres de ce peuple, les citoyens, et entre peuples, la solidarité entre peuples de la quatrième leçon. Deuxièmement, comme je l'ai expliqué dans la première leçon, la souveraineté, une fois populaire, une fois rendue populaire, une fois popularisée, pour citer Sommeck, cette popularité s'est transformée dès le 18e au niveau interne, et il faut le faire sur le plan international, s'est transformée d'une autorité ultime de la limite en une autorité ultime de l'origine. C'est d'ailleurs le sens du terme auctoritas, l'une des deux dimensions de la souveraineté européenne depuis l'origine, rappelez-vous, pour désigner ce qui littéralement émerge, en l'occurrence le peuple, constituant et constitué, instituant et institué, émergent et émergé, un peuple qui est à la fois auteur et autorité. Et c'est cette double dimension, à la fois relationnelle et originelle, de la souveraineté populaire en et de droit international, qui explique que les peuples ne puissent plus être considérants comme instituants et institués en dehors d'un milieu avec lequel ils ont aussi des relations, y compris avec les autres membres du vivant non humain qui s'y trouvent. Nos relations ne s'arrêtent pas à nos relations humaines, elles s'étendent à ces autres relations. Et c'est ce qui explique aussi que ces peuples ne puissent plus être considérés comme instituants et institués en dehors d'un milieu dont ils émergent, dont ils sont originaires. Et c'est ainsi d'ailleurs qu'il faudrait comprendre, à mon avis, à l'avenir, la notion d'intégrité territoriale. Vous rappelez que c'est un droit central de la souveraineté contemporaine, une marque centrale de la souveraineté en droit international et que l'on pourrait concevoir à l'avenir comme protégeant une intégrité, une solidarité d'un tout vivant comprenant la terre, un peuple et le vivant non humain. Cet accent sur la souveraineté relationnelle et originelle des peuples et de leur milieu naturel implique d'ailleurs, vous l'aurez compris, qu'il ne s'agit pas ici pour moi de considérer le vivant non humain ou ses milieux naturels en soi comme des souverains séparés, sur un modèle qui serait une nouvelle fois victime de l'anthropomorphisme. Il s'agit plutôt de reconstruire les souverainetés des peuples en souverainetés plus larges, biocentrées, comprenant à chaque fois un peuple et son milieu, y compris d'autres membres non humains de ce milieu. Et c'est ce que je tente de capturer par cette notion de peuple-terre. Alors, contrairement à Donaldson et Kim Lika, je ne considère pas ici les souverainetés des animaux ou du vivant sauvage, en tout cas en tant qu'ils vivent séparément des peuples. Comme Donaldson et Kim Lika et Eckersley, je pense que l'écologie doit être politique et passer par une réinterprétation de nos institutions politiques et juridiques humaines pour les rendre moins anthropocentrées et moins anthropomorphiques. Et c'est d'ailleurs dans cette approche politique et souveraine du milieu et donc du territoire que va résider ma réponse à la critique décoloniale en tant qu'elle est post-anthropocentrée de la souveraineté. La conception proposée de la souveraineté pourrait en effet permettre de sortir de l'approche purement instrumentale du territoire en tant qu'objet distinct et comme ressource des peuples, en révélant sa dimension sociale et relationnelle, et même politique. Alors pour mémoire, dans la conception républicaine de la souveraineté qui est la mienne et qui est fondée sur la non-domination, la souveraineté territoriale, la souveraineté sur un territoire, ne peut pas être elle-même une forme de domination, ni sur un peuple, ni sur la terre, ni sur le vivant en général. Il est essentiel dès lors de la distinguer de la forme du dominium ou du domaine à laquelle le droit international moderne à la suite de Vattel avait identifié et associé la souveraineté. En tant qu'autorité politique non dominante, de la contre-domination, la souveraineté ne peut donc pas être propriété, ni en soi, je l'ai dit, ni par analogie d'ailleurs, sur un territoire et sur ce qui y vit. Ce n'est même pas en fait une autorité politique ultime sur un territoire et les choses qui s'y trouvent, mais bien une autorité d'un peuple sur lui-même, d'un peuple qui s'institue en droit avec son territoire. Comme sa dimension populaire, en effet, la dimension territoriale de la souveraineté doit être comprise sous un angle politique et juridique, à la fois instituant et institué en droit international. Le territoire est instituant et institué en même temps et avec le peuple. Parce qu'un peuple, et je l'ai dit dans la troisième leçon, vit nécessairement quelque part sur un territoire, le peuple ne peut pas être distingué de son milieu naturel ou de son écoumène. Lorsque ce peuple institué est institué par le droit en un public souverain, c'est aussi dans cette même opération juridique, en ce territoire public souverain, qu'il institue son milieu naturel ou écoumène. Il le rebaptise et il le réorganise. Le territoire est une construction à la fois juridique et politique, Foucault l'avait déjà bien compris, et il est important de saisir cet alliage peuple-territoire par le droit. Ce serait une erreur d'ailleurs d'aller chercher, comme le font aujourd'hui beaucoup d'internationalistes, et c'est parce que le droit international se trompe et le demande, d'aller chercher l'identité d'un peuple dans un territoire pré-institutionnel, comme à l'inverse, je l'ai dit, ce serait une erreur d'aller chercher un territoire dans un peuple pré-institutionnel. Peuple et territoire s'instituent ensemble, mutuellement et en même temps. Et on retrouve ici, avec délice, le paradoxe de la souveraineté et la tension entre puissance politique et autorité de droit. Cette tension entre faits et normes, dont j'ai beaucoup parlé dans ce cours. Pensez par exemple à l'exigence d'occupation effective d'un territoire par un peuple qui invoque son droit à l'autodétermination. Les amateurs vont reconnaître ici une question sur laquelle nous nous arrachons les cheveux, puisque c'est une condition qui est posée par le droit international pour qu'un peuple puisse être considéré comme un peuple. Mais cette exigence d'occupation effective d'un territoire pré-institutionnel par un peuple reflète cette même ambivalence descriptive et normative de la souveraineté située entre faits politiques et normes juridiques. Et c'est ce qui explique d'ailleurs que cette exigence d'occupation effective par un peuple oscille dans la pratique entre un caractère déclaratoire et un caractère constitutif en droit international, comme la fameuse reconnaissance des États que vous connaissez toutes. Mais ce serait aussi une erreur d'ailleurs d'aller chercher une réponse à ce que sont un peuple et son territoire, uniquement en droit international. Comme d'ailleurs d'aller chercher cette réponse uniquement en dehors du droit international. Par exemple, d'aller la chercher dans la Bible, en géographie, en sciences ou en anthropologie. Les constitutionnalistes du XVIIIe siècle l'avaient bien compris, avec le souverain populaire à la fois constituant et constitué, et ce fameux peuple introuvable, avant qu'il ait été constitué, et même là, rétroactivement, seulement. À ce peuple introuvable, j'ai proposé dans la troisième leçon d'adjoindre un territoire introuvable, du moins avant son institution par le droit. Et il me semble d'ailleurs que cette conception politique et notamment populaire du territoire qui s'autodétermine et s'institue en même temps que son peuple souverain est bien supérieure aux autres conceptions philosophiques qui sont en discussion aujourd'hui en théorie politique sur les rapports entre la souveraineté et le territoire. La première conception qui a grand succès est la conception propriétaire, soit de la souveraineté de l'État lui-même, soit dans une veine plus qu'ancienne des droits d'occupation territoriale pré-institutionnelle et donc pré-souverain du peuple à instituer ensuite en État souverain. Mais cette conception souffre, je l'ai dit, de la conception propriétaire ou du moins de l'analogie propriétaire de la souveraineté, je n'y reviens pas. Même dans sa version populaire, elle est trop individualiste, trop anthropocentrée dans la manière dont elle déduit l'autodétermination du peuple de l'autonomie préexistante des individus. Et surtout pour nous ce matin, cette conception ne rend pas compte de la dimension politique, tant du peuple que de son territoire, par l'institution souveraine de la puissance politique, par le droit. La deuxième conception philosophique en discussion aujourd'hui des rapports entre la souveraineté et le territoire est beaucoup plus instrumentale, donc elle dérange moins. Elle considère que la dimension territoriale de la souveraineté octroie aux institutions souveraines une stabilité qui permet ensuite d'assurer la paix, la justice, de protéger les droits de l'homme. Et même si cette conception purement instrumentale, qui ne mange pas de pain, est tout à fait compatible avec celle que je vous propose, elle ne va pas, à mon avis, au fond de la relation politique entre un peuple et son territoire. Surtout, elle permettrait à une institution politique territoriale non démocratique, qui ne serait pas fondée sur la souveraineté populaire, de prétendre à la souveraineté territoriale. Enfin, cette deuxième conception instrumentalise le vivant non humain et met la souveraineté territoriale au service d'une vision anthropocentrique de la paix et de la justice pour les hommes. Alors il reste, même dans la conception que je vous propose, de nombreuses questions à régler, et j'ai déjà traité dans la troisième leçon de la réinstitution des mêmes peuples sur plusieurs terres, ou sur la même terre, et de plusieurs terres pour un même peuple, et cette possibilité se transposerait donc très bien, à mon avis, aux vivants non humains et à ces liens qu'on sait multiterritoriaux, parce qu'après tout, les oiseaux volent et les poissons nagent. J'ai aussi parlé dans la quatrième leçon de la solidarité, non seulement entre peuples, mais aussi entre territoires. Le partage d'un écoumène et donc potentiellement du même monde à réinstituer par le droit international, ouvre donc la perspective de nouvelles souverainetés en et de droit international encore plus solidaires que celles pour lesquelles je vous ai présenté un argument. Il s'agit maintenant de déterminer comment procéder juridiquement à la réinstitution des souverainetés populaires et égalitaires en souveraineté plus biocentrée, en souveraineté des peuples terres. Et pour cela, je propose de revenir aux deux piliers personnels et populaires, donc personnes humaines et peuples, de la réinstitution égalitaire de la Charte des Nations Unies, dont je vous ai déjà parlé et que j'aime beaucoup. 45 et la Charte des Nations Unies. C'est ce moment absolument unique de réinstitution d'une part de la personne humaine en tant que titulaire de droits de l'homme et d'autre part des peuples, du peuple, réinstitué en titulaire du droit à l'autodétermination. Et on le voit bien dans le préambule de la Charte. Donc il s'agirait de repartir de ces deux piliers personnels et populaires de la réinstitution de l'égalité par la Charte en y ajoutant une restitution égalitaire des milieux, ou écoumènes. Ce que j'ai appelé dans la première leçon le cadre constitutionnel fondamental, ou que d'autres appelleraient le cadre impératif de l'égalité de souveraineté en et de droit international, serait donc enrichi d'une nouvelle dimension plus englobante de l'autorité de la limite ou de l'origine, à la fois constituante et constituée, instituante et instituée, celle de l'écoumène au milieu naturel ou vivant, y compris non humain. Pour mémoire, l'argument présenté dans la première leçon m'a permis d'établir, à la suite de Heller et d'Eisenhaus, que l'égalité de souveraineté n'est pas une question qui échappe à l'ordre juridique international et devrait être imposée de l'extérieur, depuis une théorie de la légitimité politique, par exemple, de ce droit. Mais c'est une exigence de morale politique inhérente à cet ordre, celle du principe moral de l'égalité de souveraineté des peuples. L'égalité de souveraineté figure donc au rang des principes les plus fondamentaux de l'ordre juridique international, des principes de l'égalité fondamentale du droit international. Comme je l'ai expliqué dans la première leçon, cette dimension instituée, et donc à la fois juridique et politique de l'égalité, tant personnelle que populaire, va au cœur de la structure normative contemporaine. En effet, la justification institutionnelle a pris la place de la justification chrétienne, puis métaphysique, de l'égalité de souveraineté du droit international des origines. Il ne s'agit plus, rappelez-vous, d'une égalité par transcendance divine, appliquée ensuite en vertu d'une analogie naturelle entre le peuple et la personne humaine. Mais comme l'ont bien remarqué Linda Lieberman, la même tension entre transcendance et immanence a été restituée totalement artificiellement et de manière sécularisée par la dualité politique et juridique de la souveraineté populaire et surtout de son égalité, à la fois instituante et instituée par le droit et, en l'occurrence, le droit international. C'est sans surprise d'ailleurs qu'on retrouve l'égalité de souveraineté parmi les normes impératives du droit international dans la pratique contemporaine de ce droit. Et ce degré de normativité dans l'ordre juridique international ne se justifierait pas s'il s'agissait d'une simple égalité de droit, au pluriel, interne à l'ordre juridique. Non, en faisant de l'égalité de souveraineté une norme impérative, le droit international la place parmi les normes auxquelles il n'est pas autorisé aux États souverains de renoncer, même en y consentant, au prix sinon de la renonciation à la souveraineté de tous les autres peuples. Il la situe aussi parmi les normes auxquelles les États n'ont pas à consentir pour qu'elle les lie. Il la place donc au-delà de la compétence souveraine, hors du champ de la puissance politique ainsi ordonnée. Cependant, il le fait sans en faire une question de vulgaire validité juridique, entièrement soumise à l'autorité du droit international. Et le rôle liminal ou originel de la souveraineté populaire égalitaire peut alors déployer tout son potentiel sur le plan international, celui de pouvoir à la fois constituant et constitué, instituant et institué. Et il me semble que cet argument peut aussi s'étendre à l'écoumène institué en territoire souverain d'un peuple et pour son rôle à la fois instituant et institué. Comme et avec le peuple, l'écoumène serait revêtu d'une autorité non seulement de la limite, mais aussi de l'origine. Viser à instituer et par là à représenter, à rendre présent à nouveau symboliquement, et donc à rendre présent ce qui ne l'est pas ou ne l'est plus, n'est pas nouveau dans l'histoire de la représentation, et j'y ai consacré tout un cours en 2022-2023. Avant d'instituer le peuple en état, après tout, la représentation institution des juristes médiévaux a permis d'instituer Dieu en l'Église. Alors pourquoi s'interdire de représenter et instituer la terre et le vivant non humain en droit ? Alors de façon tout à fait intéressante, et j'aimerais terminer sur ce point, cet argument normatif pour les souverainetés des peuples terres en et de droit international, qui est un argument, vous l'avez vu, généalogique, fondé sur une réinterprétation interne du levier populaire de l'égalité des souverainetés, fait écho à ce que l'anthropologie politique nous dit de certaines pratiques et marques de souveraineté biocentrée, avec bien sûr toutes les précautions et réserves que j'ai mentionnées précédemment. En effet, dans l'ouvrage de Libersky, on trouve la description d'une terre instituée en souveraine par l'institution d'abord d'un gardien de la terre et ensuite d'autres organes politiques comme la chefferie qui instituent le peuple. On retrouve donc ce que j'ai appelé dans mon cours de 2022-2023, premièrement la représentation institution qui est ici appliquée à la terre et dans ma proposition de ce matin au peuple. Terre au peuple et à sa terre, en une première institution souveraine, et deuxièmement, ce que j'ai appelé la représentation agence, pour les divers organes de représentation souveraine de la terre, et dans ma proposition de ce matin, les différents organes du peuple terre. La boucle entre les dimensions normatives et descriptives, entre normes et faits de la souveraineté, dont j'ai tant parlé de ce cours, est donc enrichi d'une dimension biocentrée et non plus seulement anthropocentrée. Surtout, la boucle est aussi désormais bouclée méthodologiquement. L'anthropologie politique des faire-monde rejoint le droit international des souverainetés, des autorités ultimes qui, vous l'aurez compris, doivent être saisies par le droit, mais ne peuvent pas être bien saisies seulement par le droit. Alors, comme je vous l'avais annoncé dans la première leçon, il n'y aura pas de cours l'an prochain, car je serai déchargée. Je vais mettre cette année à profit pour préparer la publication de l'essentiel de mes cours de ces 6 dernières années, en reconstruisant un ouvrage autour du fil rouge des souverainetés des peuples terres et de leurs institutions publiques en et de droit international. Cette publication prendra la forme du cours général que je donnerai à l'Académie de droit international de La Haye en juillet 2027, si vous voulez y assister, et paraîtra à l'automne 2027 dans le recueil des cours de l'Académie. Je vous remercie beaucoup de votre attention depuis 6 ans pour certains et certaines d'entre vous, toujours assidues et bienveillantes. Je vous souhaite un excellent appétit, avec ou sans chou-fleur, et je vous dis à dans 2 ans. Merci.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.